Bonsoir à tous, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Hachem, d'abord ça me rappelle des souvenirs ici à la Yeshiva. Et également de remercier le Rav Yosef Cohen et tous les Tsevet de la Yeshiva pour pouvoir donner ce shiur ce soir. Alors le sujet que j'ai choisi, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu la notion de comment décrypter un petit peu ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, hein, de savoir à quoi ça vient répondre, et comment Hachem il intervient dans nos vies, voyez, et comment ça nous permet de mieux nous comprendre, hein, et de mieux nous solutionner en général. Alors, pour vous expliquer ça, je vais essayer d'amener quelques références dans les parachiotes, pour que vous compreniez un petit peu le mécanisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment Hachem fonctionne et fonctionne avec nous, et nous permet de nous bonifier. Alors, c'est marqué dans la parachute de Vayera. Après ces paroles, Akadosh Baruch Hu, il va éprouver Abraham. Il lui dit, Abraham, il dit, prends, je t'en prie, ton fils, et ton unique enfant, Sharavtel, que tu aimes, et Israq. Il va donc dans le pays de Moria, vers Aléou Lechem Léola, et monte-le en corban de Orla. Alors, bien sûr que quand on voit ça, on se dit, mais. C'est-à-dire que ce que propose Akadosh Baruch Hu en fait Abraham, c'est inhumain, quoi. Comment il peut lui demander de sacrifier son fils? Ça veut dire de l'assassiner carrément. C'est-à-dire, ça fait partie des mitzvot de Ben Noach. L'otir tsar, c'est un des commandements de la Torah, un des commandements des Ben Noach. Comment Hachem il peut demander à Abraham de tuer son fils en le sacrifiant? À part ça, il lui dit, l'enfant que tu aimes. Difficile à croire, à comprendre comment Hachem qui est Rahman, il peut demander à un homme de tuer l'enfant qu'il aime. À part celui-là, l'unique enfant que tu as. Donc ça se contredit parce que d'un côté, il est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autre. Et d'un autre côté, Hachem a promis à Abraham que de voir les étoiles sont dans le ciel et voir que sa descendance elle sera aussi nombreuse que les étoiles. Et donc tout se contredit et tout se bouscule dans sa tête. Et Rachid expliquait que pourquoi il arrive une chose pareille. Alors Rachid expliquait Achar Devarim. Quelle parole? Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Quelle parole? Alors Rachid expliquait Yesh Marabadunu Omrim. En fait, il s'agit du Satan qui vient, qui a mes quatre règles, Omer, Mikol, Seouda, chez Assam, Avraham, le écrit les Fanecha par Echad, Aïlechad. En fait, Avraham, un jour, il a fait un Mishte Gadol, un grand festin. Alors, Rachid expliquait que grand festin, c'est pas dire qu'il mesurait 200 km. Ce festin, en fait, il était grand parce qu'il avait invité des grands de ce monde. Avimelech, il avait invité les rois de Syrie, d'Iran, j'imagine, tous ces gens-là, qui, en fait, allaient dévoiler en fait, le Nes. Qui était celui d'avoir un enfant, il a eu un enfant à 100 ans, c'est énorme. Et donc sa femme, 90 ans, et donc il a voulu faire un pirsoum. En fait, il a voulu dévoiler au monde entier, parce qu'il n'avait pas Internet, et donc il a dit, je vais en parler au roi de chaque pays, et puis eux, ils enverront l'information qu'Hachem existe. Mais après ces paroles, Hachem a éprouvé Abraham. Quelle preuve? La preuve que le Satan, il met 4 règles, il vient, il dit, mais Abraham, il a fait un grand michté, il a fait un grand festin, mais il n'a pas amené parechad à ilechad, il n'a pas amené un korban pour te remercier. Alors qu'il avait sauvé son fils, il avait 2 ans, il n'a pas amené de corban. Ça veut dire que ça fait 35 ans que cette histoire s'est passée. Hein? Parce que là, il a 37 ans avant Mavinou. Et donc, ça fait 35 ans que cette histoire s'est dévoilée. Et 35 ans plus tard, on lui demande de sacrifier son fils pour essayer de réparer la problématique qu'il a eue d'avoir amené un parechad à ilechad. Alors, le problème, en fait, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre que ben, ce corban-là, qu'est-ce que c'est que ce corban par rapport à tout ce qu'a fait Abraham, c'est insignifiant. Et à part ça, 35 ans en arrière, mais qu'est-ce qu'il va se rappeler Abraham de tout ça? D'accord? On voit que le Satan, qu'est-ce que c'est que le Satan? Il faut aussi comprendre, c'est quoi le Satan? Vous voyez, il y a quelqu'un là-haut qui vient et qui nous condamne et qui nous accuse. Qu'est-ce que c'est que le Satan? À part ça, hein, c'est marqué ici que le Satan, il vient et met 4 règles. Et qu'est-ce que répond Hachem à ce fameux Satan? Il lui répond la chose suivante. Il lui dit comme ça, Amarlo, Klum Asa et la Bishfil Beno. Il lui a été Omerlo, Zeva Koto Lefana, il lui a aimé Akev. Parce que qu'est-ce que dit le Satan? Le Satan, il voit, tu vois, à cause de son fils, Hachem, Abraham, il a carrément oublié Hachem, quoi. Et tu te rends compte, la Karatatov qu'il a eu d'avoir un enfant à son âge, et que malgré tout, il n'a pas été capable d'amener un corban, alors le Satan aimait 4 règles. Il vient, il condamne Abraham. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, il a fait les Shem Shamaim, la preuve, c'est que tu croyais que. Au détriment de ce qu'il avait, que c'était son enfant, il a carrément oublié Hachem, c'est faux. Je vais lui demander de le sacrifier, il va accepter. Et c'est ce qu'Hachem propose. Abraham, tu vois, il dit, Karna et Pincha, je prends prix, prends ton fils et sacrifie-le. Le problème, en fait, c'est le suivant. Hein. Si le Satan a raison, Alors qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin d'éprouver Abraham? C'est-à-dire qu'Abraham, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, je vais te montrer que j'ai raison. C'est-à-dire quoi? Qu'Abraham, finalement, il aime son fils, et c'est pas au détriment de son enfant qu'il a carrément oublié Hachem. La preuve, je lui demande de le sacrifier, tu vas voir qu'il va accepter. Depuis quand Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? Depuis quand Hachem, il a besoin de prouver au Satan qu'il a raison? Il est qu'à dire, écoute, t'as rien compris, c'est pas grave, reste où tu es. Et c'est tout. Non, il va lui prouver, il va dire, écoute, regarde, je vais lui prouver, je vais lui prouver Abraham, et tu vas voir qu'il va accepter ce que je pensais moi. Et tu verras de tes yeux vus qu'Abraham, il va sacrifier son fils. Je dis, depuis quand Hachem, il a besoin de prouver qu'Abraham, il a eu raison de faire ce qu'il a fait, que le Satan avait eu tort? En fait, qu'est-ce que c'est que le Satan? Il faut comprendre. C'est quoi le Satan? Alors, on dit le Satan, c'est Yetzirah, c'est le Malach HaMavet, c'est le même ange, en fait, qui incite la personne, ouais, qui la pousse à fauter, qui la condamne et qui exécute. En fait, le Satan, c'est quoi? On va se rendre compte que le Satan, en fait, c'est la carence d'Abraham. Le Satan qui est en nous, en fait, le Satan, il utilise que des éléments qui sont en nous, ouais, des éléments qui sont en nous, mais qui sont quelque part une défaillance qui n'a pas été construite. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a manqué quelque chose à un moment donné de sa vie. Il a manqué ici d'Akaratatov, et ce qui est surprenant, parce que bon, d'un côté, il a voulu démontrer qu'Hachem existait à travers son enfant, donc il a fait quelque chose qui horizontalement a un sens, mais est-ce que verticalement ça avait de sens? Ça veut dire qu'il a dit à Hachem, écoute, je vais m'occuper d'être Mepharsem, le Ness, mais quelque part, il n'a pas eu le recours de pouvoir remercier Hachem d'avoir eu cet enfant. Et qu'est-ce que fait Hachem? Et donc, qu'est-ce que fait le Satan? Il met quatre règles. C'est-à-dire que le Kitroug, c'est-à-dire que la condamnation, l'accusation qui est faite du Satan, en fait, c'est un révélateur de défaillance d'Abraham. D'où je vois que c'est comme ça. Parce que Hachem, il va éprouver Abraham. C'est bizarre. Il a dit au Satan, regarde ce que je vais faire. Je vais lui demander de sacrifier cet enfant et tu verras qu'il va accepter. Mais depuis quand Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? Alors, l'idée, c'est d'expliquer, en fait, comme ça, que si la défaillance d'Abraham, elle s'exprime par le Kitroug, ça veut dire que quelque part, le Satan, il vient, il condamne Abraham, ouais, il condamne aux yeux d'Hachem. Mais qu'est-ce que c'est que le Satan? Le Satan, c'est qu'un révélateur de la défaillance de l'être humain. Un jour, il a failli, et tout de suite, automatiquement, là-haut, ça condamne. Mais ça veut dire que si quelque part, le Satan émet quatre règles, ça veut dire que quelque part, Abraham, il a quelque chose à se reprocher quelque part, vous comprenez? Ça veut dire que quand Hachem, il s'adresse au Satan, il s'adresse à la défaillance qui se trouve chez Abraham, donc il s'adresse à Abraham Avinu. C'est-à-dire que ce qu'on apprend de ce Rashi, c'est qu'inconsciemment, il y a une inconscience chez l'homme, puisqu'il faute quelque part, et Hachem, il ne s'adresse pas à la personne elle-même, il s'adresse à la partie inconsciente de l'homme. C'est ça le Satan qui vient condamner. Et donc quand Hachem, il vient dire à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le, quelque part il vient solutionner quelque chose qui n'a pas été résolu par Abraham, et donc à travers ce qu'il va faire, ça va le solutionner. Quand le Satan il vient révéler cette carence, en fait le Satan vient révéler cette carence, quand Hachem il ne s'adresse pas au Satan, il s'adresse à la défaillance d'Abraham Avinu. Donc quand Hachem il propose à Abraham de sacrifier son fils, c'est la solution à sa problématique du départ. Vous comprenez? Comme si il y avait quelque chose qui était... Comment on peut le comprendre autrement? C'est peut-être quand on dort le soir, vous dormez, en fait, votre neshama s'envole, ouais, elle part avec votre conscience, et comme si vous disiez, Hachem, voilà, j'ai raté ça, écoute, essaye de me solutionner parce que j'ai un vrai problème avec ça. Ça a pris 35 ans. Pourquoi ça a pris 35 ans? Vous allez comprendre, parce que, quelque part, pour sacrifier Yitzhak, il fallait qu'il soit d'accord. Et ça, c'est la deuxième partie de Rashi, que Rashi dit que Ishmael, il vient voir Yitzhak, il dit, dis-moi, tu as fait la brit mina à quel âge? Il dit, je l'ai faite à 8 jours, comme la Torah préconise de le faire. Il dit, mais moi, je l'ai faite à 13 ans, j'étais adulte, c'était difficile, j'ai accepté quand même de faire la brit mina. Toi, tu l'as discuté, tu n'étais même pas conscient, tu n'étais même pas présent, tu n'as aucun souvenir. Il est où le brit avec Hachem? Et sur ce, Yitzhak, il va dire, mais toi, tu as sacrifié un membre de ton corps, mais moi, si demain, Hachem m'a demandé de nous sacrifier complètement, j'accepterai. Et c'est pour ça, à Haradevarim Maele, après qu'Yitzhak, il ait dit, je me sacrifierai complètement, que là, Abraham, il va être éprouvé par la Hakedat Yitzhak. Donc il y a deux explications. Mais l'une dépend de l'autre, en fait. Ça veut dire que pour éprouver Abraham, pourquoi ça a pris tellement de temps? Parce que quelque part, il fallait qu'Yitzhak soit d'accord. Et pour qu'Yitzhak soit d'accord, il fallait qu'il arrive à maturité. Et cette maturité, elle ne dépend pas essentiellement d'Abraham, elle dépend de son fils. C'est pour ça qu'on a attendu qu'Yitzhak ait dit ça pour qu'il éprouve Abraham et solutionner à la fois Yitzhak et Abraham. Mais ce qu'on apprend de là, c'est qu'il y a une partie consciente chez l'homme et une partie inconsciente. Maintenant, dans quelle partie de notre vie Hachem s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse dans la partie consciente de l'être humain, de ce qu'on sait de soi, ou il s'adresse chez nous dans ce qu'on ne saura jamais, ou bien de ce qu'on a refoulé de chez nous, et que quelque part, Hachem, il est obligé de nous solutionner, c'est-à-dire de nous éprouver l'épreuve que l'on vit, ouais, elle vient solutionner quelque chose qui n'est pas forcément réalisable. Pourquoi? Parce que quand vous savez connaître ce principe de Gamzou les Tova, je me suis toujours posé la question, ouais, c'est connu que Gamzou les Tova, ça aussi c'est pour le bien. Ça aussi, c'est quoi ça aussi? ce qui paraît difficile à croire et à ressentir comme étant une tova, c'est en fait une tova. En quoi c'est une tova? Oui. Alors, peut-être que l'idée, c'est pas de se comprendre. N'essayez pas de savoir ce qui vous arrive. Et n'essayez pas de comprendre ce qui vous arrive, forcément. Essayez de comprendre et d'accepter ce que vous devenez parce que vous arrivez. Ici, dans l'épreuve d'Abraham Avinu, s'il s'interroge, carrément, il peut se suicider. Hein, on lui demande de sacrifier son enfant. Ça fait des années qu'il essaie d'en avoir un. Il en a eu un. C'est insupportable, vous comprenez? Donc, il est bon pour absorber ça. Donc, comprenez que ce qui arrive à Abraham est insupportable. Donc, si la personne, elle vit ce qu'elle ressent, c'est malheureux. Mais d'un côté, je dis, bon, d'accord, c'est vrai que c'est malheureux, mais quelque part, si ça me solutionne, je ne vais pas essayer de comprendre ce qui m'arrive. Parce que le Seigneur avait dit, mais tu te rends compte, Hachem, il t'a demandé de sacrifier l'enfant qu'il t'a donné, tout se contredit, c'est insupportable. Non, essaie pas de voir ce que tu vis, essaie de comprendre ce que tu deviens. Et ce que tu deviens, c'est cet homme capable, comme ici, de pouvoir accéder à autre chose, de solutionner en fait quelque chose qui n'est pas forcément conscient chez lui. Parce que ce corban, il ne l'a pas apporté un jour, mais il va l'apporter là. Quand il va accepter, finalement, Hachem va lui dire, écoute, c'est pas grave, laisse-le, et prends ce bélier. Donc, il va l'amener, finalement, l'amener. Mais pour réaliser ce qu'il n'avait pas su faire au départ, regardez par quoi il est passé pour se solutionner. Mais c'est une solution. Ça veut dire que l'on apprend d'ici, qu'on ne va pas essayer de comprendre et accepter ce qu'on vit, parce que c'est des fois difficile, mais de comprendre ce qu'on devient parce qu'on a vécu. Voilà. C'est ça le principe. Le phénomène premier, c'est de comprendre que quand vous vivez quelque chose, vous allez, même si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, de toute façon, vous avez changé. De toute façon, vous avez quelque chose qui s'imprègne en vous, qui vous permet d'accéder à autre chose dans vos vies de demain. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça la Tova. La Tova, c'est ce que je deviens. Pas ce que je suis. Là, ce que je suis, c'est difficile à vivre. Mais ce que je deviens, ce que Avram va devenir, il va devenir un Ma'amin. Parce que la Emouna que va atteindre Avram, ici, l'Emouna qui va atteindre Avram, elle est bien au-delà de la logique humaine. Logiquement, c'est incohérent ce que lui propose Abraham. Hachem, il lui propose de sacrifier son fils, il lui propose de l'enfant qu'il aime, qui est unique enfant, tout incohérent. Et inhumain, c'est vrai, au niveau. C'est vrai, Israël, il va lui dire, écoute, tu vas quand même pas sacrifier ton enfant. Il va dire, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, mais t'as raison, humainement. C'est-à-dire que dans ma logique à moi, j'ai toujours dit aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. C'était logique, c'est vrai. Mais peut-être qu'Hachem, il veut m'amener à autre chose. À comprendre que d'être Ma'amin Bachem, c'est d'avoir la conscience qu'Hachem existe au-delà de la logique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si je raisonne dans ma vie en pensant que Hachem, je le conçois d'une certaine manière, et autrement, ben, je ne conçois pas. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, ben, à 120 ans, on va retrouver Hachem dans la perception qu'on a de lui. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas comprendre d'Hachem? Qu'est-ce que tu crois que tu vas retrouver? Ben, tu vas retrouver une molécule dans les milliards de kilomètres d'infini. C'est pas ça, Hachem. Hachem, il est même plus dans ce que tu sais pas de lui, de ce que tu sais de lui. Donc quand tu comprends pas, tu dis pas, ben, c'est pas lui. Non, tu diras, c'est sûrement lui, mais autrement que ce que j'avais compris. Vous avez compris? Et donc d'arriver à sortir de là, de cette logique-là. Alors pour qu'on va rester d'articuler ça, vous allez comprendre comment ça marche. Yaakov Avinu, quand il va quitter ses parents, parce que son frère, il est absolument fou de rage d'avoir vu qu'il lui a pris la Bechora et sa Bracha, il va se sauver. D'accord? Il va partir chez Lavan. Et là-bas, il va rencontrer Rachel, dit la Torah, et il va aimer Rachel, il va voir son beau-père, et il dit, je veux Rachel. Rachel, bitraktana, je veux Rachel, je veux pas Léa. Je veux Rachel, ta fille, et pas une du chou que tu veux me sortir, une Rachel du choupadou. Et je veux la Ktana, je veux la cadette, et pas l'aînée. Parce que de peur que tu ailles à la mairie et tu changes de prénom, ça m'intéresse pas. Donc il voulait Rachel, absolument Rachel, et pas Léa, ni personne d'autre. C'est marqué dans la Torah que Yaakov, il a travaillé 7 ans pour elle. Mais Yaakov, il a travaillé 7 ans pour sa femme, sa future femme Léa. Et c'est passé, Kéyami Machadim, à une vitesse folle. Ouais, bah, va Toto, par amour pour elle, il va arriver donc le jour de son mariage, il va voir son beau-père, il dit voilà, les 7 ans sont passés, je veux me marier. Et qu'est-ce que fait son beau-père, dit la Torah, il a été chercher carrément Léa. Et qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Les signes qu'il avait donnés, parce qu'il était absolument certain que son beau-père, il a eu faire un coup derrière, il a dit, écoute, je te donne des signes, qui étaient Nida, la Chot de Nida, ouais, de la Katnerot et de Chala. Il a dit, ouais, personne ne connaissait la Chot, c'est loin. Ouais, je te l'ai dit, et sous la Chopa, si au cas où je ne te verrai pas, voilà les signes. Ok. Maintenant, Léa, elle rentre sous la Chopa, et Rachel, elle la voit comme ça, elle lui donne des signes. Le plus beau jour de sa vie, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, le plus beau jour de sa vie, alors que Yaakov, il a travaillé 7 ans pour elle. C'est long, hein.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle est comme ça, spectatrice. Je sais pas, moi je vois ça, je fais un scandale. Là, je vois ma soeur qui rentre sous la coupa. Mon mari veut m'épouser, c'est le plus beau jour de ma vie. En plus, il y a Kovavino, c'est Clay Israel, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle dit non, non, elle donne les simanim à sa sœur. Un, qu'est-ce que Léa va faire sous la roupa? Deux, qu'est-ce que Rachel, elle donne des simanim à sa sœur? Et qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner? Ben, quand il va se rendre compte, Yaakov, que c'est pas Rachel, ben, non seulement il va pas épouser Léa, c'est sûr, et Rachel, ben, c'est terminé, hein? Non? Ben, je sais pas, il arrive le matin, il se découvre, c'est Rachel. Hein? Découvre Léa, Léa, ouais. Ah, je sais pas, il est trahi par sa future femme, ça va, et l'autre, il peut pas l'avoir. Et Yaakov, sa mida, c'est le Hémet. C'est-à-dire qu'on est dans le Shekhar Gamour, ça va, elle a trahi carrément, je sais pas, une déception amoureuse énorme. Comment ça se vit, ça? Ben, il y a deux façons de penser. Soit tu dis, ben, Min HaShemayim, grâce à Dieu, je suis pas rentré dans cette famille. Hein? L'autre, elle est folle, l'autre, elle est je sais pas quoi, son père, c'est un fou. Grâce à Dieu, au Hachem, je sais pas. Parce que le mariage, il est caduque. D'accord? Et ça, sa future femme qui devait se poser, elle a fait ce coup de la derrière, c'est terminé. Bah oui. Hein? Comment ça se traduit, ça? Bah, tu dis Yetzera Tov, Baruch Hachem, grâce à Dieu, je ne suis pas rentré là-dedans. Ou alors Yetzera, on veut absolument m'empêcher d'épouser cette femme, parce que je connais Rachel, et c'est dur, hein? Comment ça se résonne, ça? En fait, le problème est le suivant. Quelqu'un qui vit un truc pareil, c'est un traumatisme mental de fou, quoi. Une déception amoureuse de dingue. Hein? Elle va lui dire, écoute, je vais tout t'expliquer, il n'y a rien à expliquer. Ben, quand tu vois ça, tu n'as rien à expliquer. Pourquoi il n'y a rien à expliquer? Parce que le mental, il ne suit plus. Je veux dire que psychologiquement, on va dire que de façon rationnelle, ça peut s'entendre, je veux bien, mais de façon émotionnelle, c'est une trahison énorme. Donc, quand on est trahi dans sa vie, on ne peut plus rien entendre. Vous comprenez? Le cerveau, il est noué, tu peux tout expliquer, il n'y a rien à expliquer, c'est terminé. Émotionnellement, c'est trop touchant, on ne peut pas écouter. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre que l'émotion que ça renvoie, c'est parce qu'elle m'a trahi. Non? Oui. Mais est-ce que je sais ce qu'elle pense? Ben non. J'ai 99 chances sur 100, elle m'a fait un coup par derrière. C'est vrai ou pas? 99 chances sur 100. Mais ça, hein, c'est. On va dire que 99 chances sur 100, c'est la logique de ce que je ressens. En fait, c'est une interprétation sur une situation. J'interprète. Et c'est logique que si elle avait voulu me tromper, il n'y a pas mieux, quoi. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Dans le dos, dans son dos, par derrière, elle donne des semaines à sa sœur. C'est comme ça. Mais en vérité, j'en sais rien. Alors, j'ai dit, bon, bah, écoutez, puisque ma déception. Ma frustration, elle dépend de ce que je sais, de ce que je crois, on va dire. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais lui demander, parce que je vous explique. Le sentiment de trahison, sentiment qui est très fort, ouais, mais il est suspendu et qui est conditionné par ce qu'elle a pu faire. Mais comme j'en sais rien, et que si Bémette, elle avait eu raison de le faire, ma frustration disparaît. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous avez compris? Alors, je me dis que je laisse une chance. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Certainement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors dans la Torah, hein, c'est pas marqué, mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Pas marqué dans la Parasha, mais dans le Midrash. C'est marqué là-bas, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué qu'il a été voir Léa. Il lui a dit, tu es une ramaille, tu es une trompeuse, fille d'un trompeur. Ton père, c'est un ramaille, et toi aussi, t'es un ramaille. Elle lui a dit, pourquoi? Il dit, bah, parce que quand je t'ai demandé si tu rentrais, tu m'as dit, oui, c'est moi. Bon. Et elle lui a dit, oui, j'ai compris, mais toi, quand tu étais voir Essav, toi, tu étais voir ton père. Bon, il t'a dit, c'est toi, Essav, t'as dit. Oui, c'est moi, Essav. Tu aimes bien qu'on ait fait pour vivre ensemble. Elle a dit, quand ton père, il a dit, c'est toi, Essav. Bah, qu'est-ce que tu lui as dit? Oui, Annie Bechorecha, Essav. Tu vois bien, donc tu vois aussi, tu mens. Le problème, c'est de comprendre le Midrash. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas répondu à la question. On lui demande, mais pourquoi tu as menti? Elle répond, t'es un menteur. J'ai compris, donc je suis un rachat, il n'y a pas de problème. Mais toi, pourquoi tu as menti? Elle n'a pas répondu. T'as compris? En fait, elle a répondu. Quand il lui a dit, mais tu m'as dit que tu étais Rachel. Et je lui ai dit oui. Alors il a dit, en fait, il a dit comme ça, quand tu étais voir ton père, et tu lui as dit, mais c'est moi, Essav. Qu'est-ce que tu lui as dit en fait? Bah, un jour, tu as vu ton frère qui était censé être le vrai Essav et qui était devenu Racha et qui a été Vaïbez Tabéchoa, il a dénigré le droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça fait toi? Tu as dit, ben, ce droit d'aînesse, on en a besoin et les Kohanim, il n'y en aura pas, mais il y aura les Bechorot. Les Bechorot, c'est eux qui vont trouver le Bédamigdash. Donc, je vais récupérer le droit d'aînesse de mon frère et je lui achète. Donc, il devient le Bechor, Essav. Mais quand il est devenu le Bechor et qu'il a pris la bracha de son frère Essav, ben, il a pris la femme d'Essav. C'est ça qu'elle lui a dit. Il dit, quand tu as dit à ton père que tu étais Essav, ben, tu as pris la femme d'Essav. Ben, c'est moi la femme d'Essav. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut laisser une chance. C'est ça qui est dingue. Vous avez compris l'Israël, comment il fonctionne? Ça veut dire qu'il y a quelque part dans la réalité quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, en vérité, Yaakov, il s'était trompé au départ. Yaakov, il a dit, je veux Rachel Bitraktana. Mais Hachem, il a pensé autrement. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse pour permettre à Yaakov d'envisager qu'il pouvait aussi épouser Léa? Vous avez compris ça? Alors il a été trompé parce qu'il s'est trompé. Seulement il faut avoir des midotes pour accepter ça. Ouais. Il faut avoir des midotes parce que d'un côté, c'est l'antithèse du Emmet, parce que ce que je vois, ben, c'est une trahison. Donc il faut avoir des midotes d'être capable de faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de savoir que la trahison elle est suspendue sur une traduction, une interprétation de ce qu'a fait Rachel. Donc je dis, bah oui, bah, 99 chansons, elle m'a trahi. Ouais. Je dis, oui, t'as raison, c'est vrai, mais c'est une interprétation. T'es sûr de ce que tu dis? Bah, logiquement. Mais est-ce que tout ce qui est logique est vrai? Bah, c'est pas sûr. Tu vois bien que là, c'était logique, et c'est faux. Ça veut dire qu'il faut être capable de voir. Et il faut être capable de traduire une réalité qui, en vérité, un, pourrait nous détruire, mais d'un autre côté, elle vient forcément répondre à quelque chose. Et il faut aussi savoir une chose. Que le Yetzer Hara, hein, il va se manifester essentiellement que dans des situations qui sont pour vous favorables. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire dans la vie. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Mais bizarrement, il y a une certaine mise en que veut faire le Yetzer Hara, il s'acharne pour nous empêcher de la faire. Et d'un autre côté, il y a des Averot, oui, il y a des Averot, et il y a une Avera. Bah, celle-là, il s'acharne. Celui-là, il, je ne sais pas ce qu'il a, lui, il vient, il veut absolument nous faire transgresser cette mitzvah-là, ou cette Avera. Vous comprenez? En fait, c'est quoi ces deux tendances? C'est exactement ce que je veux faire dans ma vie. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une mitzvah que j'aurais bien voulu faire, mais à chaque fois que je veux la faire, ben, on m'empêche de la faire. Et d'un autre côté, il y a des Averot qu'on me pousse à faire. En fait, ces deux tendances, c'est de tout ce que je veux construire dans ma vie. Par exemple, on va faire la tefillah le matin, ok? Bon, alors on fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait les brachot du matin, on fait le Pesukei Zimra, on fait le Yotzer, ouais, on fait le Kriyat Shema, on émet Kabel Ol Malchut Shamaim, et après on commence, on va faire la Amida. Bon, on est arrivé au summum de la tefillah, qui est la Amida. Et qu'est-ce qui se passe? On démarre la tefillah, on démarre la Amida, et 3-4 brachot plus tard, ça y est, on s'envole, ça y est, on est parti. Ça y est, on est ailleurs, on est truc, on a des rendez-vous, on a le Tosfot dans Hirouvin, on ne l'a pas compris, il faut le refaire. Etc. Voilà, on est parti, ça y est. Bon, est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Ben, j'avais ni envie de penser, ni c'était le moment. Oui ou non? Donc, qui c'est qui pense? J'avais pas envie de penser à ça, moi. J'avais envie de prier, moi. J'avais envie de faire la tefila, moi. Et systématiquement, tout le temps, toutes les filottes, le matin, l'après-midi, le soir, ça y est, c'est parti. On n'arrive pas à se concentrer. C'est vrai ou pas? Mais c'est qui nous pousse à penser à autre chose? C'est qui? Qui dit, mais ce que je pense, c'est ce que j'ai pensé dans ma tête, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc c'est qui pense? Hein? Ben c'est moi. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que tu avais envie? Non. Est-ce que c'était le moment? Non. Déjà, quand quelqu'un te parle, tu parles à quelqu'un, tu dis, écoute, excuse-moi, je pense à autre chose. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Répète. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est honteux. Mais avec Hachem, on se permet. Pas grave. C'est bizarre, non? Donc je sais bien que ça se fait pas. Mais c'est qui m'a fait penser alors? Vous savez ce qui se passe? C'est qu'on a des intérêts dans le cœur. Qu'est-ce qu'il fait, l'Etzara? Il veut absolument couper le lien avec Hachem. Absolument couper le lien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des intérêts personnels. Il va nous les mettre en pleine tête. Mais des intérêts personnels, hein, en pleine tête, pour couper le lien avec Hachem. Parce que si tu crées le lien, il est foutu, lui. C'est comme ça. Et il le sait, lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des intérêts forts au moins égaux à ce que j'ai envie de prier. Vous avez compris, quoi? Et là, il va couper le lien. Et c'est qui fait ça? Hitzer. Mais moi, je crois que c'est moi qui pensais. Mais non, c'est pas toi. C'est qu'on t'a proposé quelque chose qui était dans ta pensée. Mais c'est pas toi qui penses. Et c'est peut-être des fois même pas toi qui interprètes. On voudrait te faire croire. C'est comme ici, tu dis, ah, qu'est-ce que tu crois? Elle m'a dit ce qu'elle allait faire, et elle a donné Siméon à sa sœur, je lui ai dit, mais on, j'ai jamais voulu épouser sa sœur, moi. Moi, je voulais épouser Rachel. Qu'est-ce qu'elle a été faire donner Siméon à sa sœur? C'est 90, mais c'est sûr qu'elle est folle, c'est sûr qu'elle a fait. Qu'elle a rien à voir, j'ai rien à voir dans ma vie avec elle. C'est comme ça, j'interprète. Mais c'est évidemment comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? Mais qui c'est qui t'a fait croire? Je dis, bah, c'est logique. J'ai compris, mais des fois, ce que tu crois, c'est pas forcément ce qui est. On voudrait te faire croire. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui existe, qui s'appelle le Satan, le Yetzara, et qui voudrait nous faire croire, mais à partir d'éléments qui sont connus de moi. C'est-à-dire qu'on utilise une carence humaine. Vous avez compris ce qui se passe? Ici, Yaakov, il s'est trompé. Alors, on utilise cette carence contre lui. Mais pourquoi faire? Pour lui montrer la vérité. Vous avez compris ce qui se passe? Elles avaient compris ce qu'elles devaient faire, et lui n'a pas su qu'il devait épouser Léa. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse? Ben, il va être obligé de tromper Yaakov pour lui montrer qu'il y a une autre femme dans sa vie. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est Yitzhara? Parce que c'est tellement fondamental dans la vie de Yaakov Avinu qu'il épouse Léa, qu'il s'arrive à se mêler. C'est obligé. Et c'est pour ça qu'il le sait, vous comprenez ou pas? À chaque fois que vous allez faire quelque chose de très fort, vous allez voir Yitzhara s'acharner. Tout le temps, c'est comme ça. Mais c'est un révélateur de ce que je dois devenir. Nous, on s'angoisse qu'on est du Yetzer, c'est vrai. Alors que le Yetzer, il n'a eu de sens ici, utilisé par Hachem, que pour être un révélateur de ce que je dois devenir. C'est-à-dire d'être un champion du monde de la mitzvah que je dois faire, et d'être capable de me retenir dans l'essentiel de ma vie, lorsque lui voudrait me traîner dans la vôtre. C'est deux tendances, c'est toute ma vie, en fait. Mais d'où je sais? Ben, c'est lui qui me l'a dit. C'est pour ça que le Midrash dit là-bas, la Gemara dit dans ce cas que le Yitzhara, il est rare, Hachem Karoto rare. Et d'un côté, Midrash Rabba, il dit là-bas que Iné, Vayar Ahilokim, Kolacherasa, Iné Tov Meod, il dit Tov Meod, c'est Yitzhara, Tov Meod, Yitzhara. Comment il peut être rare et Tov Meod? En fait, il est rare parce qu'il est révélateur du mal. Mais il est Tov Meod parce que c'est lui qui m'a dit qui je suis. Vous comprenez ou pas? Je sais qui je suis dorénavant. Parce que cette tendance négative, ben je dois me retenir, c'est lui qui me l'a dit. Et la positive que je dois attendre, à chaque fois il vient, il s'achante pour ne pas me faire atteindre. C'est lui qui m'a dit que c'est ça que je devais faire, en m'empêchant de l'atteindre. Ou c'est lui qui m'a dit ce que je dois me refuser à vivre, parce qu'il veut me pousser à l'atteindre. Vous comprenez? C'est lui qui me l'a dit, Tov Meod. C'est-à-dire qu'il y a des révélateurs fondamentaux derrière. Mais ce qu'Hachem a fait en fait, Avraham, Yaakov, il ne le voit pas. C'est maintenant qu'on le comprend. Vous comprenez? Ce qui nous arrive en vérité, c'est après coup qu'on le comprend. Mais il faut être capable d'avoir les midotes pour nous permettre de le voir. C'est ça qui se passe avec Yaakov. Plus tard dans la Torah, c'est marqué qu'il va épouser, donc il va épouser Rachel et il va épouser Léa, c'est ça? Mais c'est marqué Vayaev, Yaakov et Rachel, mais Léa. Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Donc il aimait Rachel, mais plus Rachel que Léa. Il aimait Léa. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vayar Hachem qui se noue à Léa. Hachem, il a vu qu'il a hissé Léa. Comment Hachem, il voit de la haine alors qu'il aime cette femme? Vaiftar et Rachma. Donc il va ouvrir la matrice de Léa. Il va l'ouvrir. Ça veut dire qu'elle était stérile puisqu'il ouvre. Donc elle était stérile comme sa sœur. Mais Rachel a Kara. Mais Rachel va rester stérile. Mais dans ça, hein, c'est Hachem qui parle, c'est Hachem qui voit. Mais comment Hachem il peut voir de la haine là où il n'y en a pas? Parce qu'Yaakov, il aimait cette femme. C'est marqué qu'il aimait. C'est quoi la haine en fait? C'est quoi la haine? Alors il faut comprendre que la haine, ce n'est pas la haine qu'on pense. Je pense que la haine qui est marquée dans la Torah, ici, c'est celle qui va entamer l'amour. C'est-à-dire quand on dit que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa, il y a quelque chose qui va faire en lui qui va moins aimer Léa. Ça, c'est ça qu'Hachem il a vu. Mais qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce qu'il a fait pour équilibrer ça? Il a fait que Rachel, elle va rester stérile. Donc elle va subir quelque chose dans sa vie qui est effroyable, hein, de ne pas être femme, de ne pas être une mère un jour, c'est dur. Hein. Mais pour que sa sœur, elle soit aimée par son mari. Pourquoi? Parce que quand Yaakov, elle va tomber enceinte, il va devenir père grâce à elle pour la première fois de sa vie, a priori, ça va combler ce qui manquait au départ. Ça va? Mais qui c'est qui a vu ça? C'est Hachem. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il n'a rien vu. Ça veut dire que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Hachem, que ce qu'on vit en vérité vient répondre à quelque chose d'inconscient. Vayar Hachem qui se noie, hein? Ça veut dire que lui, Yaakov, il n'en sait rien. Seulement, qui c'est qui voit? C'est Hachem. Donc ce que Hachem propose, ce que lui ne sait pas, c'est une solution à son problème. Donc la vie, c'est pas un problème. Comme par exemple, je ne sais pas, j'imagine que Yaakov, il préfère Rachel que Léa. Donc ben, quand Rachel est restée stérile et que Léa, elle a eu un enfant, il dit, ben, je suis d'accord, mais c'est pas ce que j'espérais. Et c'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais des enfants de Rachel que j'aime. Léa, bien sûr, évidemment, je l'aime, mais c'est pas la même chose. Il dit, mais qu'est-ce que t'attends d'aller voir une gynéco, toi? Qu'est-ce que t'attends d'aller voir? Donc il va se mettre en colère contre sa femme qu'il aime. Vous comprenez ou pas? En vérité, alors qu'en vérité, c'est l'inverse qui se passe. Ce que tu croyais être un problème, parce que ta femme que tu aimes, elle n'a pas d'enfant, et celle que tu aimes moins, elle en a, c'est pas ça que tu voulais, toi. C'est un problème. Tu vas te rendre compte que ce problème, c'était ta solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce que je vois comme un problème, c'est comme moi, je croyais que j'ai un problème. Je vois Rachel, elle a donné Simone à sa sœur, et je ne veux pas épouser Léa, moi. Que je vais faire avec Léa, moi? C'est un problème. Je dis, non, ce que tu crois être un problème est une solution. C'est pareil. Ce que tu crois être un problème parce que tu aimes Rachel, c'est en fait une solution. Ce qu'Hachem a vu, c'est ce qui est inconscient chez toi, ce qui va entamer dans l'amour que tu devrais avoir. Mais pourquoi c'est important qu'il y ait un équilibre au départ? Pourquoi c'était important qu'il y ait un équilibre au départ? Et bizarrement, vous allez voir que Rachel, Léa va tomber enceinte, et le premier enfant qu'elle a eu, comment il s'appelle? Il s'appelle Shimon. Il s'appelle Reuven, pardon. Reuven. Reuven, pourquoi? Ben, il y a Hachem qui... Il y a marqué Reuven parce que Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance de couple. Bon. Le deuxième, elle l'appelait Shimon. Pourquoi? Shama Hashem, Kisnu Anochi, que j'étais haï par mon mari. Troisième, Lévi, Oula Yapam, peut-être maintenant mon mari va m'accompagner. Il avait Ishi. Je lui ai donné 3 enfants, on est 4 femmes, il y avait 12 enfants, 3 fois 4, 12. Bah, j'ai joué mon rôle de femme, j'espère que mon mari, dorénavant, il va m'aimer quand même. Donc ils ont été à la mairie, comme tout le monde, hein. Et dit, comment t'appelais le premier? Reuven, pourquoi? Bah, Hashem, il a vu combien j'étais, c'était dur avec toi. Hein. Bon, le deuxième, ben, il a vu Hachem combien tu m'as haïssé. Le troisième, vous avez compris, c'est une folie, quoi. Depuis quand une femme, elle appelait ses enfants au nom de sa souffrance de couple? C'est assez... Comment une femme, elle peut appeler ses enfants au nom de sa souffrance de couple, hein? Ça veut dire que ce qu'il a vécu n'a pas été solutionné. Abba Rashi ramène, du Midrash, il dit Reuven, c'est quoi Reuven? Reuven, regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère. Esav. Que mon beau-frère Esav... Yaakov, il a pris sa Bechora, hein, il a voulu le tuer. Et Reuven, il a su qu'il avait perdu sa Bechora et qu'elle est partie chez Yosef. Et non seulement il ne l'a pas tué, mais c'est lui qui l'a sauvé. Du puits, quand il était pris là-bas, ouais, ils ont voulu tuer leur frère. C'est lui qui a été le sauvé. Regardez la différence entre mon frère et mon beau-frère. Voilà ce qu'elle a dit Reuven. C'est mirant que dans le Midrash Rabbah, c'est marqué une chose qui n'est pas marquée dans la Torah. Alors j'ai pensé, l'idée c'est comme ça. Tout ce que vous verrez dans la Torah, c'est tout ce qui est vu au microscope. Ça veut dire qu'il y a, elle a dit, la différence entre mon fils et mon beau-fils, et mon beau-frère, pardon, c'est ça la différence, Reuven. Mais la Torah, elle a dit autre chose. Reuven, il a vu Hachem Beroni. Vous avez vu? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que porte l'enfant, qui n'est pas conscient chez les parents. Bizarrement, vous allez voir, plus tard, que les enfants de Léa, ils vont haïr et jalouser les enfants de Rachel. C'est bizarre, non? Hein? D'où il est le terrain à la haine? D'où il est le terrain à la différence? Ben, en fait, il est né de Dao. On engendre ce que l'on est. Hachem, il a essayé de solutionner ce décalage. A priori, ça n'a pas marché. Ça crée la haine. Vous avez compris? Vayar, ça marche. Vayiru echav ki oto avave mekol echav, vayisnu oto. Mais d'où vient la haine des frères? Pourquoi tu n'es pas fier d'avoir un frère pareil? Pourquoi tu n'es pas fier d'avoir un frère comme Yosef? Tu te rends compte, on est tous des sadikis, mais on a un frère exceptionnel, brillant, intelligent. Et cet enfant-là, il est exceptionnel. Pourquoi on n'est pas fier de lui? On est haineux de lui. Pourquoi c'est de la haine qui est engendrée? Pourquoi il y a un terrain à la haine et il n'y a pas un terrain à la fierté? Vous savez pourquoi? Parce que derrière, il y avait quelque chose qui n'a pas été solutionné. Et ce terrain, en vérité, il vient du décalage entre les parents, au départ. Regardez ce qu'il a marqué dans la Torah. Que lorsque Yaakov, il va enseigner la Torah à ses enfants, il va enseigner essentiellement la Torah qu'il a appris à la Shiva de Shem Vever à Yosef. Il va lui offrir une kétonette passive. il va écouter du lachonara de cet enfant, etc., etc. Et c'est marqué dans la Torah, Vayiru Echav. Vayiru Echav, ils ont vu ses frères. Qui auto a avaviem. Auto a avaviem. Lui, lui là. Il n'a pas de nom celui-là. C'est bizarre qu'il n'a pas de nom, Yosef. Aux yeux de ses frères, il n'a pas de nom. Vayiru Echav, qui auto a avaviem, école Echav. Vayisto auto. Lo yachou de Beru Lechalam. Vayiru Echav, ça veut dire que les enfants ont vu ce que le père n'a pas vu. D'accord ? Marqué Vayiru Echav, ils ont vu les frères de Yosef. Qui auto ha'avaviem, que lui était préféré de leur père, Mikol Echav de tous ses frères. Alors ce qui est bizarre, c'est comme ça. C'est à cause de qui, dites-moi vous, à cause de qui Yosef, il est préféré? Qui c'est qui a un rapport privilégié avec cet enfant? Qui c'est qui crée la différence? Ben, c'est son père. Oui ou non? Là, ben, le fils, il subit ce que son père, il a aimé chez son enfant. Pourquoi les enfants de Yaakov n'ont pas haï leur père, ils ont haï leur frère? Vaïro et Chav, Vaïsno auto. Non, Vaïsno ton père. Va haïr ton père, c'est lui qui va offrir des cadeaux, c'est lui qui apprend la Torah, c'est lui qui marque la différence, c'est lui qui nous ignore. C'est ça ou pas? Donc on aurait dû haïr son père et pas son frère. Ça c'est une chose. À part ça, c'est marqué Vaïro et Chav, Kyoto, Avaviem, Mikol et Chav. Plus que tous ses frères. Pourquoi plus que tous ses enfants? Il a aimé Yaakov, Otto, lui, plus que tous ses frères. Non, plus que tous ses enfants, il fallait dire. Pourquoi marquer ses frères? Parce qu'un enfant qui ne se sent pas aimé de ses parents, il ne peut pas haïr son père. Vous savez pourquoi? Parce qu'il attend d'être reconnu par son père. Par contre, son frère, il se met en décalage entre lui et son père. Alors je vais détruire mon frère pour ne pas pour retrouver mon père. Pourquoi? Pour retrouver l'amour que mon père il me doit. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il est marqué Veyiru Echav Kyoto Avavie Mikol Echav et pas Mikol Banav. Parce que le fait que Yaakov il ait montré une affection particulière avec cet enfant, il a quelque part ignoré les autres. C'est ça qu'il a été méchané Ben Abanim. Et ça, ça crée de la haine, de la fracture familiale. Veyiru Echav Kyoto Avavie Mikol Echav. Veyisno Oto. L'indifférence du père crée de la haine. Et cette haine-là, elle ne va pas s'appliquer sur le père qui fait la différence, mais sur l'enfant. Parce que j'attends, moi, en tant qu'enfant, d'être connu par mon père. Le problème, c'est que quand on est père de famille, en fait, tout ce qu'on fait, c'est justifier en tant que père. Tu dis, mais moi, je lui ai appris la Torah parce qu'il est brillant, intelligent, je lui ai offert une Torah parce qu'il mérite de l'avoir. Le problème, c'est qu'il faut que tu apprennes une chose. C'est d'arriver à voir, non pas comme toi tu penses, mais comme ceux qui subissent tes choix pensent. Toi, tu as choisi, toi, en tant que père, de donner une kétonne passive. Toi, tu as choisi, en tant que père, de lui apprendre à lui la Torah. Ça, c'est super. Donc, tu veux être, c'est justifié? Ouais, c'est justifié, bien sûr. Razak, pour toi, mais pour eux. Pour eux, ceux qui subissent ça, c'est justifié. Il dit, mais papa, tu as compris? Il faut avoir le regard, non pas de celui qui est le père, mais de celui qui est l'enfant. Celui qui va subir. Et ce décalage, il va créer de la haine. La haine, c'est quoi? Parce qu'on sait pertinemment que mitato shel Yaakov, mitato shel Ema. Vous voyez, c'est marqué dans la Torah qu'Avram, il a eu Ishmaël, Avram, il a eu Ishmaël, Israël, il a eu Esav, mais Yaakov, mitato shel Ema. Mitato shel Ema. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, c'était comme des tzadikim. Vous avez compris? C'est impossible de comprendre la Torah si tu ne comprends pas que tout ça, c'est inconscient. C'est-à-dire que la haine qui est engendrée derrière, c'est la différence mal acceptée. Et ça, ça va créer un terrain à la haine. Ça va créer un terrain à la différence. Et ça, hein, c'est ce qu'on va comprendre, essayer de comprendre. Vous avez vu qu'ici, il va se passer une chose. Il faut comprendre ça. Ici. Il faut comprendre pourquoi Yosef, finalement, il était vendu esclave. Pourquoi il était chassé de sa famille? Qu'est-ce qu'Hachem, il voulait en faisant une chose pareille? Pourquoi Yaakov, il a dû voir son fils partir? À quoi ça vient répondre? Pourquoi cette souffrance qui va durer 22 ans? Quand Yaakov, il raconte ses rêves, Yosef, il raconte ses rêves. Il dit, vous savez, j'ai rêvé. Vous avez des gerbes devant moi, qui se prosternent, Fané qui se prosterne devant moi. J'ai aussi rêvé d'un autre rêve, des étoiles. Bon, il a sûrement raison, hein, parce que son rêve, bon, finalement, il va se réaliser plus tard, c'est vrai. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on parle? Est-ce que c'est pas un peu audacieux? Est-ce que c'est pas osé, quelque part, de dire à ses frères, vous savez, j'ai rêvé. Il ne mentionne même pas Hachem dans son rêve, il n'est même pas dérangé par le dire. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Eh bien, il va faire qu'il va quitter la famille. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il va le rendre esclave. Comment ça se comprend, ça? Pourquoi il est chassé de sa famille? Et pourquoi il va forcément devenir un esclave? Ayved. Ben, quand on est quitté sa valise, c'est comme ça. En fait, là où il se trouve, Yosef, il dérange. Mais en fait, il fracture la famille. Parce qu'il est audacieux, il est fort, il est courageux, il est intelligent. Et cette différence, il n'arrive pas à la gérer, en fait. Il a un potentiel extraordinaire, Yosef, mais ça déborde. Il n'arrive pas à s'autogérer. Alors Hachem, il dit, écoute, c'est pas, tu ne peux plus rester là. Parce que là où tu te trouves, tu vas carrément fracturer que la Israël, c'est impossible. Il faut que tu partes. Deuxièmement, pour Eved. Parce qu'un Eved, il va faire de lui quelque chose. Mais sans se vanter d'être un Eved. Vous comprenez? Donc ce que vit Yosef, en fait, c'est un drame. Hein. Mais d'un côté, c'est une solution. Ne regarde pas ce que tu vis. Regarde ce que tu deviens. Tu deviens un Eved. Tu dis, mais moi j'avais rêvé, moi, d'être en haut de l'affiche, là-haut, là, j'avais rêvé, ils vont tous penser à moi. J'ai compris, mais la manière dont tu le penses, c'est pas ça que j'attendais de toi. Vous comprenez? Donc tu vas devenir un Eved, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de travailler pour quelque chose, sans se vanter d'être quelqu'un. Pourquoi son père, il a dû voir son fils partir, un chidi qu'il a pleuré Yamim Rabim, de nombreux jours. Vous voyez? Quand il a vu qu'on lui a amené la kétonette passim aspergée de sang, il a dit « Tarof Taraf Yosef », il a dit « Mon fils est mort », et il a pleuré « Yamim Rabim ». Rachid expliquait, en fait, ce n'est pas des Yamim, c'était des Shanim Rabot. Il a pleuré son fils 22 ans. Pourquoi 22 ans? Parce que pendant 22 ans, Yaakov, lorsqu'il était chez Lavan et sur le chemin, il n'a pas fait Mitzvat Kibud Avaim. Mais non, qui c'est qui l'a envoyé chez Lavan? Quand sa mère, elle a su que son frère voulait le tuer, elle dit, il ne faut pas que tu restes là, il faut que tu partes chez Lavan. Et son père lui a dit, c'est là-bas que tu trouveras ta femme. Oui, par Jatoldot. Donc qui c'est qui l'a envoyé là-bas? Bah, son père et sa mère. Donc il a fait Kibud Avaim. Oui, non. Maintenant, quand il était chez Lavan, là-bas, chez Haran, en Turquie, là-bas, hein, est-ce qu'il pouvait revenir en Israël pour faire Kibud Avaim? Il pouvait ou pas? Il pouvait ou pas? Bien sûr, physiquement. Mais s'il allait là-bas, son frère, il allait le tuer. Est-ce que j'ai une mitzvah de sacrifier ma vie au détriment du Kibud Avaim? Est-ce que j'ai une mitzvah? Est-ce qu'on a une mitzvah de mourir pour faire Kibud Avaim? Non. Donc est-ce qu'il avait la mitzvah? Non. Donc un, il était pas tôt, et deux, il a fait Kibud Avaim comme il a pu. Pourquoi on lui reproche Kibud Avaim? Alors qu'il n'était pas possible de faire Kibud Avaim. Parce que s'il retournait chez ses parents, et ça l'aurait tué. Ben, il aurait été voir ses parents. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Toutes ces années, il est mort quand, son père? Beaucoup plus tard. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu, il n'aurait pas pu faire Kibud Avaim, parce que même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu. Parce que d'aller voir son père et sa mère, c'était au détriment de sa vie. C'était su depuis le départ, depuis ses parents. Donc qu'est-ce qu'il a manqué, le pauvre Yaakov? Pourquoi on lui reproche cette souffrance? Alors là-bas, le Maharal, il explique comme ça. Le Maharal, il dit comme ça. C'est marqué là-bas, c'est marqué que quand Yaakov, il était chez Lavan. Ouais. Ve Yaakov, Yaakov, ve Lavan, Sheva Shanim. Ve Ayu Be'enav, Kiyami Machadim, Bavatota. Ces jours, en fait, aux yeux d'Abraham, de Yaakov, ils étaient comme des jours Echad. C'est quoi Echad? Comme des jours Echad, Achadim. Comme des jours comptés. Ça veut dire qu'il s'est passé 7 ans comme une semaine. C'est marrant, il y a marqué Yami Machadim. On parle d'années là-bas, et c'est marqué que comme c'était comme des jours. Yami Machadim. Alors le Maharal, il explique, Yami Machadim, Yami Rabim. Ça veut dire quoi? Yaakov, il ne pouvait pas faire Kibud Avaim. C'est vrai. Parce qu'au détriment de sa vie, ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'il était dérangé? Est-ce que tous les jours, il a dit, ah, j'aurais tellement aimé faire Kibud Avaim, mais je ne peux pas parce que mon frère va me tuer, et comment je vais faire, et tous les jours, et tous les jours? Ça serait passé vite ou ça aurait été lent d'attendre? Est-ce que quand quelqu'un, il est soucieux de ne pas faire la mitzvah, c'est lent ou c'est long? Ça passe vite ou ça passe pas vite? C'est lent. Or, c'est passé vite, donc. Il est où son père? Elle est où sa mère? Ben, si elle était là dans sa tête, dans sa vie, il aurait dit, ben évidemment, ça, je suis en souffrance de ne pas faire la mitzvah, au détriment de ma vie, bien sûr. Mais est-ce que tu es en souffrance? Non! C'est passé vite. C'est ça qu'Hachim lui reproche. Ça veut dire qu'il va devoir construire son Kibud Avaim à travers le manque de son fils. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Yosef doit partir pour son père et il doit partir pour lui-même. Parce qu'à travers le fait qu'il ait manqué d'existence pour son père, il va reconstruire psychologiquement ce que son père lui avait manqué. Vous avez compris ça? Oui. Est-ce que Yosef va vivre en partant? Ben, c'est de construire ce qu'il avait manqué, c'est-à-dire de ne pas être audacieux au point de sortir à ses frères que vous allez vous prosterner à moi, et aussi d'être capable d'exister parce que tu as un potentiel qui doit exister pour toi-même. Alors deviens un Eved. Vous avez compris ce qui se passe? C'est que l'autre, il voit son fils partir, il croit qu'il est mort. Cette souffrance, mais qu'est-ce qu'il devient avec? Il va reconstruire son petit bout d'abîme. Parce qu'il va se rendre compte, peut-être Yaakov, la souffrance qu'il a pu entraîner à ses parents parce qu'il n'était pas là. Et ça aurait dû le faire souffrir. C'est ça Kavod. Le Kavod, c'est le respect que je donne à mes parents. Le respect que je donne à mes parents, ce respect-là, c'est quoi le respect? Le respect, c'est le Kavod. Le Kavod, c'est-à-dire Kavod, c'est lourd. Je dois trouver des arguments chez mes parents qui justifient le respect. C'est ça ma mitzvah, moi. D'abord, tu respectes pas comme ça. Tu respectes parce que ton père, il est spécial. Il a quelque chose de spécial. C'est ça qui justifie ce que tu respectes de lui. Et ta mère, c'est pareil, d'honorer ses parents. Maintenant, comme ça, comme je les ai en or, va te dire que ça me manque, évidemment. Mais si ça te manque, c'est que tu as construit ce kavod en toi. Parce que si ça te manque pas, c'est qu'il n'est pas là, ce kavod. Vous comprenez ou pas? Ou alors, tu l'as changé avec autre chose. Et c'est pas normal. C'est-à-dire que quand Hachem lui propose à Yaakov de voir son fils partir en pensant qu'il est mort, il va se rendre compte du manque que lui occasionne son fils, qui va reconstruire une souffrance intérieure qui va lui permettre de comprendre ce qu'il a engendré à ses parents, qui va lui manquer. Autant qu'il aurait dû être en manque de ce qu'il a engendré à ses parents. C'est ça que je vous explique. C'est ça qu'Hachem y fait. Ça vient répondre à ça. C'est comme ça qu'il faut le lire. Regardez ce qui se passe. Il s'est passé 22 ans, et tout d'un coup, il y a la famine en Israël. Bon, alors Yaakov, il dit à ses enfants, écoutez, il n'y a pas de quoi manger, allez en Égypte, amenez la nourriture. Oui. Bon, ils partent en Égypte, mais leur père, il a dit, écoutez, ne rentrez pas tous dans la même porte, on va vous mettre la Yénara, prenez tous une porte différente. Ok. Qu'est-ce qu'il avait fait, Yosef, dit Rachi? Eh bien, il avait demandé aux douaniers, là-bas, de noter les gens qui rentraient. Mais si vous voyez des gens qui rentrent, un tel fils de Yaakov, vous me prévenez. Bon, ils sont tous rentrés dans des portes différentes. Qu'est-ce qu'il a prétexté, Yaakov et Yosef? Il a dit, vous êtes des espions, des méraglimes. Pourquoi vous êtes passé par des portes différentes? Il n'allait pas dire, à cause de la Yénara, hein, ça ne marche pas. Donc, ben oui, ça ne marche pas. Donc, ils ont dit, ben, ils étaient bien embêtés. Mais pourquoi il a dit méraglimes? Pourquoi il a dit, vous êtes des explorateurs, des espions? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait compris, Yosef, ce que je vous explique. En vérité, il y a quelque chose d'inconscient. En vérité, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ont été explorer ses rêves. Vous êtes des espions. Il a espéré qu'en disant espion, inconsciemment, ça allait révéler quelque chose. Parce que c'est parce que vous avez espionné mes rêves et que vous avez été les raconter que vous avez pensé que j'allais en fait compte. En fait, tout ça, c'était faux, en fait. Mais c'est encore une interprétation. Ça n'a pas marché. Espion, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, vous m'avez dit que vous avez un petit frère. Bon, je ne vous crois pas. Hein. Mais de toute façon, ne revenez pas sans lui, ça ne sert à rien. Hein. Il n'y a pas de nourriture. Bon. Ils sont retournés, ils ont acheté la nourriture et sont repartis. Nous dit la Torah hein, que quand Lévi, il a ouvert sa sacoche, il a trouvé l'argent. L'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la nourriture, ils ont dit « Hachemi Manachno ». On est fauteur. Peut-être que quand Yosef, il criait dans le bord, au secours, et qu'on est resté indifférent, Hachemi nous fait vivre cette souffrance. Qu'est-ce qui va faire que pendant 22 ans, ils n'ont pas pensé à lui, et tout à coup, Yosef, il apparaît à la surface? Comment la souffrance, ça peut engendrer une conscience? C'est bizarre. Quand ils sont revenus, finalement, Yehuda, il s'est porté garant, il a dit, écoutez, on n'a pas de quoi manger, il faut absolument retourner en Égypte. Et il s'est porté garant, il a dit à son père, je vais prendre Binyamin avec moi, de toute façon, on ne peut pas retourner en Égypte si Binyamin n'est pas là, mais si je ne le ramène pas, khatati lechak kolayamim, j'aurais fauté vis-à-vis de toi tous les jours, et Rashi explique, tous les jours, c'est Baron Lamazé, et Baron Lamaba. Donc il s'est porté garant de Lamaba. Et ils repartent là-bas, et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ben, il s'est fait dire, excusez-moi, je m'étais trompé, mais finalement, hein, il va les recevoir, mais finalement, il va mettre sa coupe. Il va demander à ce qu'on mette sa coupe dans la sacoche de Binyamin. Et on va finalement prétexter qu'ils ont été des voleurs. Et on va fouiller Minaga de la Kada, jusqu'à du plus grand au plus petit. Et on va retrouver la coupe dans la sacoche de Binyamin. Bon, Binyamin, il a volé ou pas? Bon. Et c'est un voleur, Binyamin? C'est un voleur? Est-ce que Binyamin, c'est un voleur? Est-ce qu'il a volé la coupe? Ben évidemment, que les Binyamin, c'est un voleur. Bon, est-ce qu'on est des voleurs? Non plus, d'où les frères. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Elokim matza et avon avadecha. C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des avadim. Je sais pas, nous on aurait été là-bas, moi j'aurais dit, j'aurais été porté plainte, j'aurais pris un avocat. Bah évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Vous avez compris? C'est marrant, ils lisent pas comme nous la réalité. La réalité que nous on aurait fait, on aurait vécu un truc pareil. Mais je sais que bien, j'ai volé personne, c'est un coup monté contre nous, et je sais pas ce qu'on veut nous faire. Attendez, je suis désolé, je porte plainte, je prends un avocat, j'attaque le gouvernement, qui voudrait? C'est vrai, c'est ça qu'on aurait fait nous, non? Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit Elohim, Matsa et Amon Avadecha. C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. Nous et lui qui a volé la coupe. Pourquoi ils ont dit ça? On n'aurait jamais pensé un truc pareil, nous. Vous avez compris? On a compris que la réalité, ça vient répondre à quelque chose. Ça vient répondre à quoi? Vous savez pourquoi? J'ai tout à coup compris que parce que on a pensé qu'il fallait vendre Yosef à Ebed. Et en fait, on se rend compte qu'on a eu tort. Parce qu'on a engendré une souffrance à notre père qui n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'il porte le deuil d'un enfant qui n'est finalement pas mort. Etc. etc. Ça amène des durs remords et de la teshuva. Alors vous savez ce qui va se passer? Que pour faire teshuva, ça ne suffit pas de dire excuse-moi. Il faut qu'on devienne des avadim. C'est ça qu'Hachem veut. Parce que quand tu deviens Eved, tu te rends compte de la situation que tu as jugée vis-à-vis d'autrui, que peut-être tu ne l'as pas assez sentie, toi. Alors pour la sentir vraiment et pour regretter ce que tu as fait, tu vas devenir un Eved. Et quand tu deviens un Eved, tu te rends compte, c'est dur d'être un Eved, mais c'est ça que j'ai engendré chez mon frère. Comme si que la capara, finalement, c'est ce qu'ils avaient compris. Et c'est tellement fort que ce que tu deviens, finalement, par ça, c'est que tu as la conscience de ce qui t'avait manqué au départ. Vous avez compris ça? C'est ça qu'ils ont dit. Ça veut dire que la réalité, elle vient répondre à quelque chose dans ta vie. Donc ne regrette pas ce que tu vis, ou bien ne refoule pas ce que tu vis, parce que c'est que comme ça qu'Hachemi te parle. Mais il ne vient pas parler à ta conscience, parce que ça c'est ton travail personnel. Mais il vient répondre à quelque chose qui est inconscient. C'est-à-dire que la souffrance est un révélateur. Pourquoi c'est un révélateur? Tu vois, il y a des gens, ils tombent malades, ils deviennent religieux. Tu piles à l'hôpital, hein, il dit, priez les rabbins, priez les magas, demandez les brachot. Il ne fait pas kippour, mais il demande, en fin de vie, il demande, pourquoi tu deviens religieux, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pourquoi? Parce qu'inconsciemment, il y a une souffrance intérieure. Mais qui n'est pas révélée, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de pratiquer la Torah et Mitzvot. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem, il envoie une souffrance qui va atténuer ce désir. Et qui va permettre à la personne d'accepter ce qu'elle a refoulé au fond d'elle-même, et que c'est là, tout à coup, qu'elle devient religieuse. C'est comme j'ouvre les sacoches, je vous trouve l'argent. Et je pense à Yosef. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à Yosef? Où il est, où Yosef? Parce que la souffrance, en fait, c'est ce que j'avais refoulé dans ma vie. Parce que si je ramène Yosef à la maison, qui c'est qui va souffrir? C'est moi. Non. Donc je me donne des raisons intellectuelles qui de dire que Yosef, il est rebelle contre la royauté de Yehuda. Et cette raison, elle se justifie parce que je n'ai pas envie de le revoir. Mais en vérité, c'est mon inconscient qui renvoie à l'idée que Yosef, il n'a rien à faire chez nous. Autant que il est rebelle contre Yehuda, comme il a pu imaginer que Yosef Yehuda va se procéder devant lui. Il va fracturer le clan Israël en deux. C'est logique ou pas? Oui, c'est logique, mais est-ce que c'est vrai? C'est plus tard qu'ils vont se rendre compte, quand Yosef il va dire « c'est moi Yosef, mon père est vivant ». Ils vont dire « waouh, la gaffe qu'on a fait, on a été vendu Yosef, alors qu'il était, c'était pas roi d'Israël, c'est roi d'Égypte ». Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, en vérité, vient répondre à quelque chose d'inconscient. C'est comme ça qu'on doit comprendre nos vies. C'est ça, Gamzou, les Tovas. La Tova, c'est ce que tu deviens. C'est Tov, parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te retrouver. La dernière preuve que je vous apporte, c'est la suivante. Parashat Béchalar, c'est marqué « Vaï Béchalar paro ta'am ». Velo nacham elokim derech eres pelishtim. Hachem, il ne l'a pas dirigé vers le pays des pelishtim, parce que c'était Karov, c'était proche, c'était la frontière entre Israël et l'Égypte. Il fallait juste passer là-bas. Pourquoi il n'a pas fait ça, Hachem? Peni nachem aham, parce que le peuple va regretter, birota mihama. Il va falloir faire la guerre, ils vont regretter, ils vont retourner Mitzrayima. C'est ça, oui? Ils vont retourner des esclaves en Égypte. C'est ça, oui? Mais depuis quand ils vont retourner en Égypte? Qui c'est qui parle? C'est Hachem qui parle. Encore une fois, quand Hachem parle, c'est la partie inconsciente. Nous, on est sortis d'Égypte, il y a drama. On est sortis avec la main haute, là, on était fiers de nous. Mais en vérité, il y a une carence intérieure qui n'est pas consciente. Hachem, il a vu cette carence. Il a vu qu'on aurait eu peur de faire la guerre. Alors, il nous a fait faire un détour. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que dans la vie,
on sait des fois, hein, dans notre vie, on sait des fois hein, que le chemin, il est droit. On sait où on va, on sait où on doit arriver, on connaît les étapes. Et tout à coup, Hachem nous fait passer par des étapes qui sont complètement détournées parce qu'Evaïsev Aham, on va se retrouver dans le désert. Mais c'est bizarre, c'était Karov. On devait monter au nord-est d'Israël, de l'Égypte, et on arrive en Israël directement. Pourquoi Hachem nous a fait faire un détour par le désert? Des fois, c'est des chemins de torture qu'on nous fait passer, et on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est pas normal. On savait que c'était proche, on savait la direction qu'on devait avoir, à prendre, et c'était facile. Pourquoi Hachem nous fait faire des détours dans la vie des fois? Et vous allez vous rendre compte que le détour est la solution au problème. Alors qu'en général, on dit non, mais on va perdre notre temps, et tout ce qui va nous arriver, on va le refouler parce que c'est pas ce qu'on voulait faire, etc. Vous avez compris comment ça marche? Il tira. Non. Il faut que tu comprennes que si le détour a été organisé, puisque Hachem, il est là pour toi, c'est qu'à travers le détour, tu vas trouver la solution à ton problème du départ. Alors écoutez ce qui va se passer. Hachem, il va endurcir le cœur de Paro. D'accord? Il va dire, mais ma'asinu, kishinachnu et Israël, mais ravdenu. Qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir alors qu'ils nous servaient des esclaves? Ils vont les pourchasser. Ils vont arrêter Sagar Alem Amidbar. Ils vont te retrouver devant le désert. D'accord? Donc tu as la mer devant toi. Le désert à droite à gauche, et tout à coup, ils ont vu lever les yeux, ils ont vu les Mitzrim arriver. Et quand ils ont vu les Mitzrim arriver, ils ont eu peur. Il y en a qui ont prié Hachem, et il y en a qui ont dit, Ami Blik, Varim et Mitzrim, est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte, la carte de la Moune de Bidbar, que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Tov Lanou, il était préférable, mais Tov Lanou, Avod et Mitzrim, qu'on travaille pour les Égyptiens. Et c'était Tov l'anneau, mais avant d'être Mitzrayim, ils montaient au Mamidbar. Vous avez vu ce qu'ils ont dit ou pas? Ils ont dit exactement ce qu'Hachem il a pensé. Il a dit, mais si on va monter en Israël directement, ils vont avoir peur de la guerre et ils vont retourner en Égypte. Oui ou non? Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit. Mais comment ils ont fait Hachem? Il a envoyé Paro. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vous avez compris ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a pensé, on ne peut pas construire de l'Aïmouna si tu es un peureux. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire ce que tu refoules inconsciemment. Tu vas le dire. Tu vas dire que j'aurais préféré souffrir que de mourir. J'aurais préféré souffrir d'être un esclave que de mourir dans le désert. Mais c'est exactement ce que Hachem a pensé. Amar Elohim, peninachemma birotamicham ishavu mitzraima. Vous avez compris? C'est ce que Hachem a pensé. Mais Hachem, il ne peut pas nous laisser comme ça. Alors, il va créer une situation qui est la solution à ce problème. Et toi, tu vas dire dans ta bouche que tu ne savais pas. Que tu vas dire toi-même, tu vas évacuer de toi. Tu vas savoir, tu vas savoir à travers un événement ta petite faiblesse. Et cette faiblesse, tu vas l'accepter. Et tu vas pouvoir travailler dessus pour l'enlever. Et ensuite, tu vas accepter de rentrer dans la mer rouge et de faire Kriyat Yam Suf. Vous comprenez comment ça marche? Qu'en vérité, tout ce que nous vivons, ce sont des solutions. Arrêtez de croire qu'on a des problèmes. Tu dis, oui, c'est un problème. Je vois les Égyptiens arriver, c'est un problème. Non! Sache dorénavant, et c'est une satisfaction personnelle que l'on doit avoir, que ça, ça vient solutionner quelque chose. Donc, je n'ai plus l'appréhension de ce qui m'arrive, puisque ce qui m'arrive vient me solutionner. Je suis saméar de ce qui m'arrive. Parce que ce qui m'arrive, forcément, ça va m'amener à quelque chose. Je ne suis pas dans le traumatisme de la situation, mais dans la possibilité consciente de savoir que ça, c'est Hachem qui me l'a envoyé. C'est ça d'être ma'amin, vous comprenez? Et ça, Hachem, il a pensé pour me solutionner ma vie, et pas pour m'angoisser ma vie. Voilà. Et quand je vois ça, j'ai ce recul et je me dis, Baruch Hashem, qui m'a envoyé ça, parce que ça m'a permis de savoir et de dire, et qu'est-ce qu'on a été faire? Et quand je m'entends dire, je lui dis, c'est dingue. Je m'entends dire un truc qui est complètement incohérent. Vous avez compris, quoi? Mais c'est ça que j'avais pensé au départ. C'est ça ma faiblesse. Et je l'ai sorti de moi. Et quand je l'ai sorti de moi, ça m'a permis, après, de rentrer dans la mer rouge et de pouvoir m'engager. Vous comprenez? Chazak ou Baruch, Chazak.